en ton cœur, il y a quelque chose de l'ordre de l'esprit.
Tu crois en l'homme. Tu crois en l'homme profondément et en l'homme en ce qu'il est. Une question plus profonde que simplement son métabolisme, sa physiologie, sa puissance musculaire et ses compétences techniques. Tu crois en l'homme en ce qu'il est aussi une aventure, une histoire sacrée. C'est assez étonnant. Et puis en préparant au baptême, on découvre, et là on touche justement à la jonction entre le sport, comme outil technique, ludique, et puis le sport comme événement d'avènement de l'humain, en ce qu'il y a des connexions très profondes. On peut dire plein de choses au niveau de tout le langage spirituel, qui est souvent utilisé d'ailleurs dans le sport, on voit très bien, on sait bien que tous les gosses sont crucifiés, que les montées du Ventoux, qui en parlait l'autre jour, c'est une montée du calvaire, voilà, vous voyez tout ça, le langage, c'est extraordinaire, un jour j'ai écrit un texte là-dessus. Un sport, une culture et beaucoup d'amitié. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitié. Je vous dis, c'est très simple, on me dit, mais comment vous connaissez tant de monde? Et les joueurs professionnels me disent, mais Père Raphaël, toi, mais tu connais plus de joueurs que nous. Ils les jouent, hein. Je l'ai joué, bon, ils se jouent entre eux, mais ils ne se rencontrent pas forcément, ils sont leurs vestiaires séparés, alors que moi, je rencontre les opposants et même mon club de Grenoble. Début de saison, souvent même, j'ai des clubs dont je connais plus les joueurs adverses que le club de Grenoble qui a changé aussi et qui a fait beaucoup de turnover. Il y a beaucoup d'amitié, et c'est vrai que, par exemple, je vais à Albi, je connais un seul joueur, je reste tout le temps d'entraînement sur le banc de touche, là, je regarde. Les gars qui sont des pipelettes, c'est pas possible, savent tout de suite au bout du terrain qui est celui-là qui nous regarde, etc. C'est le Père Raphaël. Ah bon, pourquoi, etc. Ça se continue par des bombes à l'eau. Des bombes, on fait des bombes quand on saute dans la piscine. En détente, après l'entraînement, ils vont se détendre entre eux. Je suis là aussi. Sur le bord de piscine, on commence à parler des questions sérieuses, de l'Église, le pape. Ouais, ouais. Et puis après, l'apéritif. Cours de catéchisme, rattrapage. Un joueur qui était croyant, je lui dis, mais Yogan, pourquoi tu n'as pas parlé, tu n'as pas témoigné de ta foi, toi, il n'y a que moi qui parlais. Je suis bavard, c'est vrai. Mais il me dit, oh, mais padre, c'est incroyable, tu n'as pas vu comme ils étaient scotchés, moi j'étais mort de rire, il me disait. Et c'est vrai qu'on fait, voilà, un cours de catéchisme, de rattrapage, etc. C'est tout simple. Et après, le repas au resto, et après, ben voilà. Et c'est comme ça. C'est comme ça que les questions se posent. C'est pour ça qu'on va arriver aussi à entrer même dans l'intime d'un joueur quand un joueur, 6 mois avant que l'affaire n'explose dans les journaux, interpelle en disant, voilà, je suis pris dans une question de dopage. Et c'est l'enfer. Ça tombe bien, je suis un peu spécialiste, je connais peut-être pas trop l'enfer, mais quand même, je peux te promettre le paradis. C'est jusque dans cette intime-là, parce que c'est des situations où on comprend la complexité du rapport à ce qu'est le sport, dans ses exigences, dans son spectaculaire de plus en plus forcené, et puis des gars qui doivent toujours tenir à la corde et qui se disent, mais moi j'en peux plus. Des gars qui aussi, on a parlé aussi du rythme des matchs qui est devenu épouvantable. Des gars qui sont entraînés à la fois dans leur club propre à l'international et puis dans un club dont peut-être ils sont aussi originaires par un pays étranger. Vous voyez, il y a des gars qui cumulent. En quelque part, on se pose la question, mais finalement, le sport, c'est. Et là, on arrive sur la question de aussi l'idole. À l'intimité révélatrice des champions de l'idole dangereuse, à l'homme blessé. C'est aussi ça. Yves nous a beaucoup parlé de la dimension de la blessure, Gilles aussi. Et c'est vrai qu'on voit les idoles, les dieux du stade, les dieux du stade. C'est pas pour rien qu'on est dieux du stade. Alors moi, le dieu du stade, ça me parle pas beaucoup. Ça m'agace ou ça me fait rigoler. Et surtout quand on connaît bien les dieux du stade, quand on les rencontre sur leur canapé, bardés de plaques de glace, en buvant le café ensemble, et qui nous parlent de leurs rêves, de leur espérance, de leurs faiblesses, comme tout homme. Alors les gens disent, ah mais vous connaissez, ben oui, mais c'est de l'humain, c'est de la patte humaine. Et dans la patte humaine, toujours en tant que prêtre, moi je verrai le souffle, on a parlé du souffle, et c'est ce souffle-là qui est intéressant. Pardon. J'avoue que il faut dire, le sport c'est fascinant. La capacité, la compétence, la puissance, le défi, le dépassement. Pour ça, moi je pensais aller aux artistes, et puis en trouvant le monde du sport, je me dis, mais finalement, j'ai découvert que les sportifs, c'était des artistes. J'ai découvert du moins que les artistes et les sportifs avaient la même configuration dans la perspective. Ils sont sur la crête. Et ils sont sur la crête de la vie. Ils ne sont pas sur la crête du sport. Hein. Tout l'emballage médiatique, publicitaire, etc. C'est des jolis kikis. Hein. Enlevez ça, il n'y a plus rien. Quand vous voyez des gens qui sont, ben vous connaissez bien, ce qu'est une carrière de champion. à un moment, on se pose des vraies questions. Hein, on passe. Et très vite, même dans la carrière du sportif, le rugbyman va poser des questions importantes parce que quand on a 20 ans et qu'on a un peu de talent, on peut rêver tout possible parce qu'on se dit voilà, ben voilà, 15 de France, international. Et puis, faut pas cracher dessus, ça fait rêver, c'est beau, et c'est beau, il y a des aventures formidables. Mais il y a tellement, tellement aussi de trahisons possibles, d'échecs, de vessies prises pour des lanternes, hein, des choses comme ça. Et ben, quand il faut atterrir, voilà, vous voyez. Et c'est l'homme du ciel qui vient pour dire attention au sol, ça fait mal, hein, sans être un ange toutefois. Voilà, alors donc c'est tout cette l'intimité, l'idole, l'homme blessé, l'accompagnement, je passe, il y a eu beaucoup de choses. Et puis la dimension de l'impact. Un jour, il y a un joueur qui m'a dit tu peux pas savoir, père Raphaël, combien, quel l'impact que tu as sur nous. Alors, moi, je me voyais emmêlé. L'impact, c'est un impact, en plus c'est un rugbyman, ça a du sens, hein. Un impact, ça doit pas être à demi-mesure. Hein. Et souvent, c'est les autres qui m'ont renvoyé ce que je faisais. Pour moi, j'ai toujours été prêtre normalement constitué, normal, prêtre normal, dans un milieu étonnant que je connaissais pas, mais qui, par osmose très rapide, vraiment je me suis senti comme un poisson d'eau. À ce point qu'un jour, je suis invité chez un joueur de top 16, hein, et sa mère lui dit « Ah, mais c'est un de tes... il joue avec toi ?» J'étais prêtre, alors que j'ai jamais joué. Donc, on était vraiment en osmose. D'ailleurs, j'ai pris des kilos, hein, depuis que je suis dans le rugby. J'ai dû prendre la stature. Avant, j'étais plutôt au style 5000 mètres, au style. Et donc, dans cette l'impact, qu'est-ce que c'est que l'impact? En fait, c'est des questions qui se posent ou qui sont en eux et qui ne se posent pas toujours et qu'ils osent poser à un moment. Et un jour, quelqu'un m'a même dit, tu sais, nous sommes toujours obligés de mentir. Président, je mens devant le médecin, je mens devant l'agent, je mens. Ça m'a beaucoup frappé parce que je me suis dit, pourquoi il ment? Ben, il ment parce qu'il faut défendre sa place, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a la famille derrière, parce qu'il y a le rêve, je ne veux pas briser. Et du coup, on est emmené dans le mensonge. C'est quand même étonnant, hein. Ce sport qui doit être un lieu d'excellence, qu'on présente comme un idéal, est aussi un lieu où le mensonge insidieusement se glisse. Et ils arrivent à la peine, au malheur, au désespoir, parfois même. Oh, désespoir, pas. Mais quand même, en ce moment même, je crois qu'il y a quelques témoignages qui viennent et qui disent, ben voilà, on a coupé, on a abîmé quelque chose de l'âme du rugby. Vous voyez, l'âme du rugby. S'il fallait prouver que le sport avait une âme, on a abîmé quelque chose de l'âme. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que les anciens qui connaissent bien une certaine vertu qui a fait le soubassement profond de ce sport, qui peut aujourd'hui en faire un outil de consommation, un objet de consommation et d'édification admirable, mais qui risque d'être frelaté, eh ben, il est bon que les anciens ramènent dans leur tradition. Voilà ce que c'était que l'essence. Non pas pour dire nous avons été bons, mais pour dire n'oublions pas ce sur quoi nous nous fondons. J'étais en Nouvelle-Zélande pendant un mois à la Coupe du Monde de 2011 et j'ai entendu Vincent Clerc a dit dans les médias, Vincent qui est un garçon charmant, il est chez nous en plus, très gentillé. Bon, il a grossi à Toulouse, c'est vrai, mais et il dit, qui est très blessé maintenant en ce moment d'ailleurs, et il disait à l'issue du match contre le Canada, Marc Lièvremont avait dit, il faudrait que les joueurs se retrouvent et maintenant les premières personnes qu'ils vont trouver après le match tout de suite c'est leur agent, voilà, l'agent. Autrement dit, ils sont bien dévorés par quelque part. Hein. Et Vincent, j'ai pas beaucoup du tout aimé ça. Il dit, oh, il faudrait que Marc Lièvremont sache que c'est plus le rugby à papa. On n'est plus. C'est vrai, mais quelle insolente parole pour quelqu'un qui est construit sur grâce au rugby à papa. Enfin voilà. C'est parce qu'il y a eu le rugby à papa que Vincent peut être... Voilà, mais un jour, quand je le rencontrerai, je lui dirai, j'ai pas aimé. Je pense aussi... Oui, non, mais j'ai fait plusieurs fois des rires. Lissade aussi, un jour, m'a déplu beaucoup. Et je pense quand même qu'il y a aussi la pression médiatique. Marc Lièvremont dit dans le journal, Vincent se sent blessé, il réagit peut-être aussi, voilà. C'est peut-être pour ça.
Pourquoi est-il blessé?
Mis à voir son agent tout près de lui à la fin du match. Non, Vincent a été touché par la remarque de Lièvremont.
Ah, d'accord.
Lièvremont dit, oui, maintenant les joueurs, la première chose, au lieu de se retrouver tous ensemble, comme s'ils se retrouvaient ensemble, ça n'avait pas de sens au rugby. on a besoin de cette communion. Hier, au sommet, on a fait ce cercle, on a dit c'était rugby. Voilà, et il s'est passé quelque chose. Si un joueur qui est dans une cohésion et qui est nécessaire pour ce jeu particulièrement, où tout le monde est, on dit, hein, tous les gabarits sont nécessaires, on a besoin de tout le monde. C'est ça qui est beau aussi. C'est ça aussi un peu la catholicité du rugby. C'est l'universel, présence et jeu de chacun dans sa spécificité propre.
Et il avait tout lieu d'être fâché quand même, Lebron. Parce que c'est lui qui compte la préparation des joueurs, qui les envoie dans une certaine orientation. Donc ce n'est pas l'affaire de l'agent. L'agent, lui, doit monnayer la valeur du joueur pour être tout.
On est bien d'accord. Ouais. Et Vincent Clerc répond aux sirènes du végétariat et dit ça s'est dépassé, on n'a plus besoin de ce truc, maintenant c'est mon agent qui est. Voilà. Je cite peut-être juste un peu un épisode qui m'a marqué aussi. Michalak, Frédéric, dans ses premiers temps de carrière, avait un jour glissé un peu aussi vers les sirènes du marketing et tout ça. Et il en était à défiler sur les plateaux, habillé. Et un match contre le Pays de Galles, Frédéric n'a touché aucune balle. Les 14 ont sanctionné, il n'a touché aucune balle de tout le match. Et il est rentré dans le rang, Frédéric. Après, il y a eu des soucis avec lui, et puis là, il revient très fort. C'est un garçon que je ne connais pas, mais j'aime bien comme ça, de loin, Frédéric. Mais actuellement... Ouais, d'accord, mais moi, vous voyez, c'est l'image. Hein, c'est l'image. Et... comme artiste, je l'ai dit. Et alors, un point, à un moment, je suis dans mon parcours de prêtre, j'ai eu trois lieux où je suis devenu un peu conseiller spirituel, très direct d'ailleurs, dans le milieu de l'entreprise, chez l'entreprise, d'ailleurs dont souvent les anciens joueurs sont créés une entreprise, sont des entrepreneurs, hein, vraiment au sens fort du mot, les grandes écoles en France, hein, le réseau grandes écoles, et puis chrétiens grandes écoles, et puis le rugby. Et à chaque fois, je me dis, mince, il y a une compétence d'accompagnement spirituel, d'éclairage, etc. Et en chacun des lieux, il y a quelque chose qui réfère à l'autre. Entreprendre, le sport, la discipline, et puis l'entreprise, et puis le réseau école, le réseau... j'avais un projet, donc je dis un projet de tresse, j'avais envie de tresser tout ça, et en détresse. Pourquoi ? Parce qu'un jour, j'en parle à mon évêque, et lui me dit... alors que j'avais déjà 16 ans de... Hein, c'est assez récent, il y a 2 ans que ça s'est passé. Il dit, ah oui, le rugby, il faut que tu penses à arrêter. Le cas d'une question, comment est-ce qu'un prêtre qui a pas une initiative qui est vraiment au fond de la paroisse, hein, je ne suis pas allé chercher rugby, c'était là, dans un développement qui m'a semblé naturel, où je ne jouais pas au prêtre, j'étais prêtre et reconnu comme tel. Hein, un évêque dit, il faut arrêter. Enfin voilà. Et moi, ça m'a beaucoup perturbé. Parce que et tout le monde, tout autour de moi, les paroissiens, les amis, les gens des lieux de formation que j'ai, voilà. Pourquoi un évêque dit faut-il arrêter? Est-ce qu'il ne connaît pas? Et ça m'a posé la question de la mission, finalement, une mission, comment est-ce qu'on la reçoit? Comment est-ce qu'on la partage? Voilà. Il n'y a que le père Michel Mousse un jour qui m'a dit, ah, je suis heureux de voir un jeune prêtre, il était évêque auxiliaire à Grenoble à l'époque, un jeune prêtre s'occuper du rugby. Oui. Mais sinon mon évêque, voilà. Donc ça, j'en avais parlé à Pascal aussi, et je lui avais parlé de mon trouble. Dans l'épilogue que je peux donner maintenant, 10e point, quelle marge pour l'initiative pastorale, donc quand l'occasion se présente. Pour nous aussi, par rapport au sport, par rapport à d'autres lieux aussi, mais ici nous parlons du sport, quelle marge nous avons, quelle marge de manœuvre nous avons, quelle autonomie, quand nous sommes dans un milieu, quand des liens se créent, qu'est-ce que nous pouvons développer? Quelle est la question de la place de la mission reçue? Comment est-ce que nous la vérifions? Comment est-ce que nous la faisons vérifier? Comment est-ce qu'elle est comprise, entendue? Ça, c'est un point important pour nous aussi, et notamment par rapport au groupe épiscopal, hein, aux évêques. Je voulais redire aussi dans l'épilogue ma joie de relier mon expérience à tout ce que j'ai entendu ici depuis deux jours, de relier. Pour moi, c'est une vraie bouffée d'air, on a parlé du souffle, hein. Vous faites d'oxygène, de dire mais oui, ce n'est pas un rêve compartimenté dans une case isolée du monde. Il y a bien une logique propre à tout ce qui a été dit de l'ordre de l'engagement. La question de la liberté pour vivre ce qui vient, ce qui viendra. Et puis dernier point, alors là c'est un point d'humour, c'est que quand même, 18 ans après, donc 94 et maintenant ça fait quoi, 17 ans, après avoir débuté là-dedans, où j'ai découvert le rugby, Et je pensais plutôt m'occuper des artistes. L'évêque m'appelle à m'occuper de la pastorale, des artistes et des liens avec la culture. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce que ça deviendra? Moi, je sais que c'est en tout état de fait une question d'amitié, l'amitié du Christ, l'amitié des hommes, l'amitié des personnes que j'accompagne. Les demandes continuent de venir. J'ai jamais été troublé dans mon travail pastoral par cette activité-là particulière, ma cinquième paroisse, comme je l'appelais. Mais je crois que finalement, Dieu a tellement d'humour qu'il l'a si large que tout est possible. Voilà. C'est un peu dans la question. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec vous dans ce temps du colloque et notamment d'avoir compris enfin Michel Croce, je dirais au père Mouisse, que vraiment l'événement a été marqué.